Donc, comme je suis minutée ce matin, je vais essayer de m'arrêter suffisamment tôt pour que le temps pour les missionnaires soit suffisant. Donc, on va repasser à Némi. Pour gagner du temps, est-ce que tout le monde a eu au moins un ou deux messages sur Néhémie? Que j'ai pas besoin de... Tout le monde a eu au moins un ou deux. Donc, toute l'introduction, vous l'avez, donc je vais pouvoir la passer. Ça va nous gagner beaucoup de temps. Donc, on en était, vous vous souvenez que Néhémie avait fait le tour des remparts, il avait fait un diagnostic, et tout seul. Puis après, il avait convoqué les notables, les responsables de la ville, et il leur avait fait son diagnostic. Il avait dit, voilà où en sont les choses. Et la conclusion de tous, c'était, bâtissons ensemble, allons-y, on va bâtir ensemble. Donc, je pense que ça, vous l'avez encore présent à l'esprit. Rebâtissons la muraille de Jérusalem, nous ne serons plus dans le déshonneur. Il leur a raconté donc comment la bonne main de Dieu était sur lui et quelles paroles le roi lui avait adressées. Bâtissons, et ils prirent courage pour cette œuvre bonne. Et là, on s'aperçoit que dès le départ, ils vont commencer à avoir de l'opposition, mais ils se mettent au travail. Donc on en était là, on a vu que il a créé des équipes, il était extrêmement organisé, hein, je pense que c'est ce qu'on a fait la fois dernière. Le chapitre 3 est assez long, il n'est pas forcément passionnant si on le lit vite, mais on s'aperçoit qu'on découvre beaucoup de choses dedans. On découvre l'organisation de Néhémie, c'est un expert à la fois en relations humaines et un technicien extrêmement compétent. Il ne va pas procéder dans le désordre, et on a rappelé que Dieu était un Dieu d'ordre. Il a un plan d'action extrêmement précis qui va faire la suite logique de son diagnostic. Il va découper les murailles en 42 sections, inégal, mais globalement en moyenne 80 mètres. Et il va affecter chaque section à un responsable, à un groupe de gens. Il a pris les gens au mot, nous rebâtirons, et hop, ils y vont. Il n'attend pas. On a parlé un peu du fait que Néhémie connaissait parfaitement les gens qui travaillaient avec lui, et en tant que modèle un peu du Saint-Esprit, ça nous dit quelque chose sur le Saint-Esprit. Il nous connaît parfaitement. Et on voit que dans sa liste, il connaît leur nom, leur région, leur métier, leur famille. Waouh ! C'était pas simplement des pions sur un échiquier. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait du bien. On a beau être plusieurs milliards maintenant sur Terre, Dieu nous connaît. Et le Saint-Esprit sait où on en est. Il en sait même plus que nous sur nous-mêmes. Ensuite, on a vu que souvent, il y avait ce mot répété à côté d'eux ou derrière eux. Et il insiste sur le côté, la proximité, le soutien des différents groupes qui travaillent ensemble. Vous imaginez ce qui se serait passé si un groupe avait décidé de faire tourner la muraille comme ça et l'autre dans l'autre sens. Ça aurait été vraiment une catastrophe. Chacun travaillait ensemble avec celui d'à côté. Ils étaient obligés, hein, parce qu'il fallait quand même que les murailles, elles se rejoignent. Ensuite, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que des maçons ou des charpentiers. Il y avait des sacrificateurs, des lévites, des chefs de district, des prêtres, des orfèvres, des parfumeurs. On se demande ce qu'un parfumeur pouvait faire, mais il y avait des parfumeurs, des marchands, des filles. Pour l'époque, c'était quand même pas mal. Chacun trouve sa place et travaille à son poste. Et la conclusion, c'était que tous, et on a bien dit tous, sont appelés à la reconstruction. Tous. On remarque que certains nobles ne se soumettent pas au service de Dieu. Quand il s'agit du maître, là, hein, l'hébreu est formel, il ne s'agit pas du maître humain, mais il s'agit de Dieu. Certains nobles avaient refusé, alors que le peuple, donc les Tekoïdes, qui étaient liés à ces nobles, pour compenser, ils vont assumer deux secteurs. Je pense qu'ils avaient honte de leurs notables. On va remarquer aussi que Néhémie, on l'a dit la dernière fois, mentionne ce fait sans le juger. Il aurait pu dire, c'est une honte, ils n'étaient pas ceci, c'était pas ça. Il ne montre pas du doigt. Et ils considèrent que c'est Dieu leur maître. Ils se contentent de le remarquer, mais ils ne se laissent pas non plus décourager en disant « Oh, c'est dur, ceux-là, ils n'ont pas voulu. » Non, les gens font leur choix et ils ne se laissent pas décourager, ils continuent son travail. Et ils ne les jugent pas non plus, ils le notent simplement. C'est l'affaire de Dieu. On remarque qu'il sait exactement tout ce qui se passe sur son chantier, qui fait quoi, où, comment, parce qu'il est au milieu d'eux. Et ça, en tant qu'image du Saint-Esprit, ça nous touche. Le Seigneur est au milieu de nous, il est avec nous. Chaque fois qu'on fait quelque chose, dans notre couple, dans notre famille, là où on est, notre association, notre mairie, puisqu'on parlait du papa de Hans, il est là à côté de nous, il est au milieu de nous et rien ne lui échappe. Et ça, c'est quand même une sécurité pour nous. Savoir que le Saint-Esprit est avec nous à chaque instant. Et là, il typifie bien le Saint-Esprit. Il sait exactement ce qui se passe. Il a tous les détails des murs. Alors, c'est amusant d'ailleurs de lire parce que là où le mur ressort, à tel endroit où il y a une vallée, à tel endroit, il connaît exactement la topographie et qui fait quoi et comment il le fait. Il connaît sa mission à fond. Néhémie, d'ailleurs, c'est fantastique. On ne sait pas exactement quel était son métier, mais il a un véritable plan d'architecte dans la tête et dans son cœur. Et c'est ça qui nous touche, qu'il est dans la tête. Hein, on a des architectes au milieu de nous. Heureusement qu'ils ont les plans dans la tête, sinon ils seraient mal. Hein. Mais c'est dans son cœur aussi. Et c'est ça le plus important. On sent qu'il aime son travail, il aime sa mission et il l'accomplit avec soin. Et ça, c'est important. Parce que on peut être appelé par Dieu, on peut avoir une mission et l'accomplir avec un certain recul. Alors, quelquefois, l'intention est bonne, c'est qu'on ne veut pas s'enorgueillir, on ne veut pas, donc on garde certaines distances. Mais le Seigneur veut qu'on soit à fond dans ce qu'on fait. Et Néhémie est à fond dans ce qu'il fait. On sent qu'il aime son travail, il aime sa mission, et il l'accomplit avec énormément de soin. Alors, on en était là, je crois, la dernière fois. Certaines parties restaient debout. Donc, faut bien se dire que sur 80 mètres, il y avait plus ou moins de brèches. Il ne commence pas une muraille à zéro, parce que beaucoup de gens se disent, 52 jours, c'est pas possible. Bon, il y avait ça. Certaines parties étaient encore debout, certaines étaient complètes, certaines étaient à moitié, un tiers, mais voilà, il y avait des trous dedans. Vous imaginez un château fort, hein, des trous dedans, mais il y avait quand même une bonne partie de la muraille qui était là. D'autre part, les pierres, vous savez ce qui se passe souvent quand il y a une guerre? Ça se voit partout. Alors, si vous allez à Mantes-la-Jolie, ça se voit bien. On voit bien que beaucoup de maisons autour des murailles sont faites avec les pierres récupérées des murailles détruites. Il suffit de regarder un peu autour de Mans, ça se voit. Et c'est la règle, hein. Quand il y avait une guerre, etc., les murs étaient tombés, les gens qui construisaient leur maison, ils en profitaient, ils ramassaient les pierres et faisaient leur maison avec. Tant qu'à faire, elles étaient déjà coupées, c'est pas mal, hein. Et là, ils n'avaient pas reconstruit les maisons à Jérusalem, ce qui fait que le chantier de pierre était disponible. Alors évidemment, si vous calculez, je sais pas si ça vous est arrivé dans votre jardin, de laisser quelques pierres dans un coin, 1 an, 2 ans, 3 ans, et là, elles ont été 150 ans. Alors, vous savez ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a la poussière qui vient dessus, il y a des plantes qui commencent à pousser, elles créent une sorte de terreau, puis ça monte. Et après, on sait même plus qu'il y a des pierres en dessous. Hein. Déjà, en 10 ans, moi, je vois chez nous, on a un tas de pierres qui est là depuis 10 ans. Bon, et alors, vous imaginez 150 ans. C'est plein de ronces, c'est plein de cochonneries, de chardons, je sais pas s'ils ont des orties en Israël, mais c'est dégoûtant, quoi. Il fallait les récupérer, il y avait quand même un travail à faire, mais elles étaient là. Elles n'avaient pas été réutilisées puisqu'ils n'avaient pas reconstruit les maisons de Jérusalem. Ce qu'il faut aussi penser, à cause de ce temps qui nous étonne quand même, c'est qu'un nom suppose beaucoup de gens. Hein, quand il dit derrière lui Baruch, fils de Zaba, eh bien, il n'était pas tout seul Baruch. Hein. Quand on dit un nom, ça suppose les frères, les cousins, la famille était élargie, hein, les frères, les cousins, les serviteurs, les enfants, les parents, même plus éloignés, les habitants aussi du lieu d'origine, les voisins. Donc, quand on dit « Derrière lui, Baruch, fils de Zaba, il répara avec ardeur », vous notez au passage « avec ardeur », c'est tout un groupe de gens. Ça pouvait aller de 20 à 40, suivant la grandeur de la famille. Donc, vous imaginez, sur 80 mètres, pour 40 à 80 personnes, même parfois, c'était faisable, suivant le nombre de brèches qu'il y avait, c'était effectivement faisable. Donc, les fondations étaient restées en place. Ceci étant, la muraille était épaisse et haute. Alors, il me semble, j'ai lu dans différents textes archéologiques que la muraille devait faire entre 2 mètres et 2 mètres 50 d'épaisseur. Quand même. Alors, vous savez, la technique, c'était de faire 2 murs et de remplir au milieu avec des cailloux. Hein. C'est ce qu'on fait dans tout. Si vous avez vu des châteaux forts, vous avez remarqué que c'est comme ça qu'ils faisaient. Donc, elle était épaisse et assez haute. Il fallait rechercher donc les pierres entassées. C'était pas évident. Il y avait du travail. Je vous ai dit aussi la dernière fois que j'ai vérifié. Effectivement, les pierres qui avaient passé par le feu étaient devenues assez friables. Et s'il y avait de la suie dessus, il fallait la casser un petit peu pour enlever la suie, sinon elle n'aurait pas collé. Donc, il y avait quand même un travail dessus. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les gens ne choisissent pas leur emplacement. Ça, c'est curieux, hein. Mais il y a un but commun, c'est la sécurité de toute la ville. C'est pas seulement mon pan de mur à côté de ma maison. Ça, c'est frappant. Il y en a quelques-uns que Néhémie a mis à côté de leur maison. Je pense qu'il avait des raisons. Mais la plupart, ils viennent travailler. Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu qui étaient tous ces gens qui se mettaient au travail. Ce que je me suis aperçue, c'est ils se mettaient au travail pour reconstruire, même si leur métier n'avait rien à voir avec la construction. Quand même, un parfumeur, c'est quand même plus délicat, un orfèvre. Je suis sûr qu'il devait avoir peur de se faire mal aux doigts, parce que je ne sais pas si vous avez vu travailler des orfèvres. Il faut quand même que leurs doigts sont en bon état. Hein. Donc, quand on fait des travaux à la maison, je vois bien dans quel état sont nos mains. Bon, pauvre orfèvre, mais ils l'ont fait quand même. ils se mettent au travail même s'ils habitent un peu dans la banlieue de Jérusalem. Et ça, c'est déjà plus choquant, parce qu'ils n'ont finalement rien à voir là. Ils vont avoir aucun avantage, tout au moins à première vue. Mais ils viennent quand même travailler. Moi, je me souviens de quelqu'un qui avait dit une fois, mais moi, je ne peux pas m'engager dans la prière pour Aubergenville parce que je n'y habite pas. Bon, c'est vrai que ça peut se tenir, ça peut se comprendre. Mais dans ce cas précis, on voit que non, même s'ils habitent un peu loin, il y en a, c'est 10 kilomètres quand même, j'ai regardé. Ils prient, ils luttent, ils travaillent pour leur ville. C'est bien. Même si leur mode de vie est nomade. Alors ça, c'est intéressant, on parle des récabites. Alors, dans la Bible, les récabites, j'avais vu ça une autre fois, c'est des gens qui, je ne sais plus exactement pourquoi, je ne crois pas que la Bible le dise, leur ancêtre avait dit, nous serons nomades, interdits de construire des maisons. Donc, les récabites sont restés nomades parce que, à cause de la parole d'un homme. Et c'est dans une prophétie de la Bible, malheureusement, je n'ai pas retrouvé, j'ai pas pris le temps de la chercher, Dieu dit dans une prophétie, c'est quand même incroyable, que vous refusez d'écouter la voix de Dieu, alors que vous, les récabites, par exemple, regardez un peu les récabites, ils obéissent à la voix d'un homme depuis des générations, leur ancêtre, et ils ne construisent pas de maison. Eh bien, il se trouve que ces fameux récabites, qui voulaient rester nomades, par obéissance à leur ancêtre, sont venus construire aussi. C'est choquant. Non seulement eux, ils se l'autorisaient pas pour eux, mais ils viennent quand même construire la muraille avec les autres. Ça, c'est une vision, hein, vision commune. Alors, ils viennent, même si leur mode de vie est nomade, même si leurs nobles refusent de se soumettre à Dieu, en donnant aussi un mauvais exemple, derrière lequel ils auraient pu s'aligner. Vous savez, nous, on est humains, hein. Eh ben, lui, il le fait pas. Et lui, c'est pourtant un notable. Et puis, c'est une grande famille. Et lui, il le fait pas, il vient pas reconstruire. Vous savez comment vous êtes à l'école, hein. Moi, je sais bien mes cinquièmes. Mais, madame, c'est pas juste, parce que vous le demandez pas à celui-là. Et celui-là, il le fait pas, madame, pourquoi nous, on le ferait? C'est comme ça à l'école, mais c'est aussi comme ça chez les adultes. Hein. Mais pourquoi? Eh ben non, ça les a pas influencés. Ça, je trouve ça chouette. Même si les nobles refusent, du coup, même, ils font double travail, les técoïtes. Puisque nos nobles refusent de bosser, nous, on fera double. Pour montrer que on veut vraiment obéir à la vision du Seigneur. Waouh, ils sont impressionnants. Alors, ils travaillent même s'ils sont conscients du mécontentement des peuples qui habitent autour d'eux. Et ça, c'est plus gênant. Parce que mécontentement, à cette époque-là, ça pouvait être dangereux. C'était pas seulement froncer les sourcils. Ils avaient les peuples autour d'eux qui commençaient à réagir, hein, les Ammonites, les Moabites, tous les gens, même en Samarie, ça commençait à bouillonner, la péninsule arabe, là, sur le côté. Ça commençait à devenir... Ils étaient en plus complètement encerclés. Donc, ceux qui venaient un peu de la banlieue, ils avaient les voisins dans le dos, qui les regardaient rentrer du boulot le soir. Ça peut être très sympathique de rentrer soit le soir. D'ailleurs, on va voir qu'arrivait un moment... il va les faire coucher sur place pour des raisons de sécurité. Et je pense que ça jouait aussi, ça. Donc, malgré ça, ils sont venus construire. Là, je trouve qu'ils sont courageux. Et ils sont venus même s'ils s'étaient accommodés de la situation depuis des années. En fait, ça faisait quand même entre 100 et 150 ans qu'ils avaient supporté que la muraille soit trouée et que les maisons soient pas reconstruites. Ils auraient pu dire, bon, bah, nos ancêtres, ils l'ont bien supporté, pourquoi nous, on le supporterait pas? Ils avaient des arguments. Mais non, ils se sont pas accommodés. Rebâtissons, on restera pas dans le déshonneur. Et je crois que quand on est dans une situation où on veut construire, si un couple, une association, etc., il faut avoir cette détermination. Non, on ne s'accorde pas des ruines et du déshonneur. Hein, on ne va pas rester, pas une question de nombre, mais est-ce qu'il se meurt dans un coin? Non, on va construire, on va s'y, même si c'est dur. En plus, même si le travail était énorme, ils ont accepté de construire. Et à première vue, sans l'organisation de Néhémie et sans la faveur de Dieu, fallait les deux, hein, la faveur de Dieu d'abord et l'organisation de Néhémie en deuxième, c'était une mission impossible. Ils n'avaient pas forcément les compétences, puisque quand même, vous imaginez, 3 à 4 mètres de muraille, 2 mètres 50 d'épaisseur, les brèches à reboucher, et en plus que ce que je savais pas, parce que je suis jamais allée là-bas, mais il y a des zones, en Lofel en particulier, où c'était complètement une pente raide. Aller construire une muraille sur une pente raide. Faut pas avoir le vertige, hein. Et vous savez ce qu'on dit toujours, comment est-ce qu'on mange un éléphant, les enfants? Vous avez une idée comment est-ce qu'on mange un éléphant? Une cuillère à la fois. Eh ben, c'est exactement ça. Le boulot était éléphantesque, mais ils vont en manger une cuillère à la fois. Ils vont travailler un petit peu à la fois. Et c'est vrai que si vous regardez ces 42 équipes, chacune sur 80 mètres, ça commence à prendre du sens. Bien motivé. Voilà. Alors, ils auraient pu aussi dire, nous, on est grand prêtre. Le premier, hein, vous avez vu, le premier qui est noté, Eliashib, le grand prêtre. Apparemment, descendant de Zorobabel, première vague de retour. Nous, on est grand prêtre, voilà, tous mes collègues qui sont là, les prêtres. Non, non, notre charge spirituelle est beaucoup trop importante pour faire des travaux manuels. Ils auraient pu, hein. Légalement, ils pouvaient le faire, hein. Honnêtement, ils pouvaient vraiment... dire ben non, nous on se consacre au travail spirituel, hein, faites bien ce que vous faites, etc. Ils auraient pu, franchement ils auraient pu, ça aurait même pas été choquant. Mais le grand prêtre, il est cité en premier, Eliashib le grand prêtre et ses frères les prêtres, Bâtir, tatata. Ça veut dire que même s'ils avaient une charge spirituelle importante, ils ont mis les mains dans le cambouis, dans la construction. Et c'est cette unité qui va rendre possible ce qui semble impossible. Ils vont pouvoir manger leur éléphant. Ça, ils se sont donné du courage les uns aux autres. C'est sûr que quand le voisin regardait, il disait oh, « eux, ils font double parce que leurs nobles ne travaillent pas. Oh, puis les prêtres, ils sont là, ils travaillent. Les orfèvres, enfin, ça encourage. Hein. » Ils s'encourageaient les uns les autres. Et ils s'accordaient donc une protection mutuelle. Alors, j'ai un petit peu réfléchi. Comment est-ce qu'une pareille unité était possible? Surtout quand on voit le peuple d'Israël qui a souvent des dissensions comme nous. Ils sont pas gaulois, mais ils en ont, hein, au côté des accords et tout. Comment est-ce qu'une pareille unité est possible? Si on réfléchit bien, c'est parce qu'ils ont tous accepté une même vision. Celle que Néhémie leur a exposée, sachant que cette vision venait de Dieu. Parce qu'on s'accroche pas à n'importe quelle vision. Hein, c'est comme ça que les sectes peuvent toujours s'assurer que ce qui est dit n'est que compris autre, soit conforme à la parole de Dieu. Quand Paul parlait, les Béréens cherchaient, non, c'était pas comme ça, c'était des rouleaux. Et ils regardaient, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? On ne doit jamais adhérer à quelque chose si on n'est pas sûr que c'est conforme à la parole de Dieu. Ça, c'est très important, soit dans notre église ou dans une autre. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, que ce soit une prophétie, n'importe quoi, il faut toujours vérifier que c'est conforme à la parole de Dieu. Donc une fois qu'ils étaient conformes aux promesses et aux prophéties qui avaient été données, entre autres par Jérémie, pour le retour, la reconstruction, etc., ils ont adhéré à la vision et ils l'ont plus remise en question. Et ça, c'est ça qui a créé cette unité extraordinaire. Ils ont accepté la vision pratique de Néhémie, c'est-à-dire la mise en œuvre de la vision de reconstruction. Parce qu'ils auraient pu préférer une autre façon de faire, un autre ordre de priorité, une autre répartition des tâches. Il y avait peut-être parmi eux des architectes, des maçons, etc., qui auraient pu dire « Oh, wow, mais Néhémie, c'est pas sa profession. À mon avis, il faudrait mieux commencer par ceci, par cela. » Non, ils n'ont pas discuté. Ils s'y sont mis. Ils ont accepté sa répartition des tâches. Il y avait peut-être une façon meilleure de le faire, mais peu importe. Il semble que ce soit quand même bien. Mais ils se sont alignés. La vision était bonne. Elle venait de Dieu. On travaille ensemble. Et ça, c'est très, très important. Ce qui comptait, c'était l'accomplissement de la reconstruction dans les meilleurs délais, pour leur propre sécurité. Ils n'ont pas contesté non plus les différents postes de travail, parce que ça, vous savez ce qui se passe, comme je disais, en classe. Hein. « Mais madame, pourquoi lui, vous lui avez donné ce texte, et moi celui-là, et le mien ?»« Ah oui, quand je l'ai fait lire. »« Ah mais mon texte, il est trop court, le sien, il est plus long. » Ça, c'est typique, hein. Parce que ces derniers temps, on avait beaucoup de lectures à faire en classe, alors c'était la rouspétance. « Ah moi, j'ai deux lignes de moins que l'autre. » Ils n'ont pas contesté les différents postes de travail. Ils n'ont pas cherché à regarder ce que faisait l'autre à côté. « Oh bah lui, il a une brèche en moi, et puis bah lui, il y a déjà un mètre de fait, il a plus qu'un mètre à faire, moi, dans ce coin-là, c'est presque à zéro. » Non. Ils regardaient pas ce que faisait le voisin d'à côté, même si c'était plus facile, si c'était moins pentu ou plus facile d'accès. Ceci étant, Néhémie a cherché à bien répartir les quantités. Moi, je m'aperçois que quand c'est facile, il donne des plus grandes longueurs, et quand c'est plus difficile, il donne des plus petites. Et il a essayé de faire au mieux. Mais il a pu se tromper, voilà. Donc, ils ne remettent pas en question la répartition, parce que ça aurait perdu un temps fou. Ils n'auraient jamais pu construire en 52 jours. S'ils avaient commencé à discuter, « Ah oui, mais Néhémie, t'as vu, lui, il en a donné plus. Hein, » Ils ne s'en seraient jamais sortis. Ce qui était important, c'était rebâtir, mettre la ville en sécurité. Ils avaient aussi une vision commune de l'avenir. Rebâtissons et nous ne serons plus dans le déshonneur. On en a marre de ce déshonneur. On en a marre d'être avec une capitale en ruine. On en a marre de plus avoir nos maisons dans la ville. On en a marre que le temple soit même pas en sécurité. N'importe quel voyou peut entrer et venir voler les choses du temple. Vous savez qu'il y avait même pas mal d'or, des plats, des vases qui avaient été rendus par le gouvernement perse. Non, ils avaient décidé qu'ils y arriveraient. Le déshonneur, c'était fini. Alors le parallèle, on peut le faire pour terminer. Avec tout groupe qui cherche à se rebâtir. On peut facilement faire le parallèle, que ce soit notre famille, au travail, dans une entreprise, dans une association, dans une église. C'est une vision commune qui maintient l'unité de gens très différents. Je me souviens, j'avais invité une de mes voisines athée à une fête de Nouvel An, et elle avait regardé, c'est tout au début, hein, Marie-France était là, et je crois que c'est tout, hein. Peut-être Yves Gaillard, oui. Et il y a donc Florence était bébé, et elle avait regardé les gens autour. Je me demandais ce qu'elle faisait à regarder les gens comme ça. Puis d'un coup, elle se tourne vers moi, puis elle me fait « Mais vous êtes tellement différents les uns des autres, qu'est-ce qui vous rassemble ?» Ah, bonne question. C'est bien, j'étais contente, parce que les églises moules à gaufres, moi j'aime pas ça. Tout le monde sur le même modèle, non. Dieu nous fait pas comme ça. Il nous a pas tous fait de la même taille, avec la même couleur de cheveux, la même couleur des yeux. On est tous différents et Dieu respecte nos différences. Mais c'est une vision commune qui va maintenir ensemble des gens différents. Évidemment, si on met tout le monde, on aligne tout le monde pareil, c'est plus facile. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous garde différents, mais il veut qu'on ait une vision commune. C'est pour ça que quand on cherche une église, par exemple, c'est important d'adhérer à la vision. C'est important quand on rentre dans un conseil municipal de bien connaître la vision du maire. Avant d'entrer au conseil municipal, ça avait été ma question. Il y a des choses que je n'accepterai pas, il y a des valeurs pour moi que je ne contournerai pas, entre autres la vérité. Du coup, le maire m'avait nommée adjointe. Mais bon, elle aurait pu aussi me refuser. Elle savait d'avance que si elle mentait, je démissionnais. Donc voilà, c'est important qu'on mette les gens courants. Mais il faut avoir une vision commune, on peut pas travailler. J'aurais pas pu rester dans un conseil municipal qui magouille, qui ment, qui vole, qui dissimule des choses. C'était pas possible. On reste un temps, on parle, mais quand ils veulent pas nous entendre, on est bien obligé de partir. Il faut garder une même vision. Et c'est ça qui est important. On peut être très très différents. Et c'est vrai que dans mon conseil de municipal, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. On était tous très différents. Il y en a qui votaient extrême droite, il y en a qui votaient à gauche, il y en a qui votaient au milieu. Mais on avait la même vision, le bien de la commune. Pas tout le temps, on n'était pas politisés en tant que commune, donc c'était faisable. Et c'est pareil dans une église. On peut pas rester dans une église où on n'a pas du tout la même vision. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais Dieu nous appelle à avoir tous la même vision. C'est important. Et on peut avoir le parallèle aussi avec notre vie personnelle. Un couple doit aussi travailler à avoir une vision commune. S'il y en a un qui veut quelque chose et l'autre veut tout à fait autre chose, ça va être très difficile. C'est pour ça que souvent, quand on est dans un couple chrétien et non chrétien, ça rend les choses extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Difficiles à vivre, en tout cas. Donc, pour notre vie personnelle, c'est la vision. Le Saint-Esprit a une vision pour notre âme aussi. Il veut qu'elle soit reconstruite comme la ville a été reconstruite en harmonie avec le temple. Notre temple, c'est notre vie spirituelle, notre relation à Dieu, en vue de notre sécurité, que notre vie ne soit plus dans le déshonneur. Il faut être en accord avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Si on est en désaccord avec l'Esprit de Dieu, notre vie, on va avoir du mal à la construire. Ça va être des chaos sans arrêt. Hein, Dieu qui tire d'un sens et nous qui tirons de l'autre, c'est très inconfortable parce que c'est lui le plus fort. Il faut être en accord, en unité avec l'Esprit de Dieu. Avoir la même vision. C'est-à-dire avoir la même vision, c'est pas nous qui imposons notre vision à Dieu, c'est là que ça devient un peu difficile. C'est accepter sa vision pleine d'espérance pour notre avenir. Et quelquefois pour nous c'est difficile. Parce que Seigneur, mais moi je voudrais ci, je voudrais ça, j'ai vu un tel qui faisait ça, je trouve ça génial, je veux faire pareil. Et le Saint-Esprit dit, un, moi j'ai autre chose pour toi. Et là on est un peu fâché, on lui cause plus. Pendant un temps, Mais le bonheur, c'est d'aligner notre vie sur la vision que Dieu a pour nous. Lui faire confiance aussi sur ses méthodes, comme ces gens ont fait confiance aux méthodes de Néhémie. Vous savez que le Saint-Esprit a quelquefois des méthodes surprenantes. Des façons de faire qui nous choquent parfois. Il va utiliser des gens pour nous reconstruire, pour reconstruire nos vies, nos couples, nos familles, nos associations, etc. Il va quelquefois utiliser des gens qu'on n'imagine pas. Quand l'Église a passé par des difficultés, je me souviens, pour ceux qui l'ont connu, Ricardo était quelqu'un qui nous a beaucoup aidés. Et on lui disait à Ricardo, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Il disait, Dieu, il a choisi ce qu'il avait sous la main. Et avec le temps, je me dis, c'est vrai, il a choisi ce qu'il avait sous la main. Il n'était pas forcément prédisposé à nous aider comme ça, mais il l'a fait. Il l'a fait, il a participé à la reconstruction de l'Église. Et Dieu va utiliser des gens inattendus, et parfois même des gens qui ne sont pas chrétiens, qui vont parler dans nos vies. Et je vous invite parfois, quand vous avez des conflits au travail, ou ailleurs, dans le voisinage et autres, et que les gens vous font des reproches, de dire attention, est-ce que c'est pas le Saint-Esprit qui me parle au travers d'eux? Oh, c'est pas des chrétiens. Et alors, c'est des êtres humains. Ils ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et ils peuvent vous dire des choses intéressantes. Bien sûr, parfois, c'est de l'agressivité, c'est du mensonge. Ok, si vous savez que c'est du mensonge, il n'y a pas de souci. Mais ça vaut le coup quand même d'écouter, de dire, peut-être le Saint-Esprit va utiliser tel collègue de travail ou tel voisin pour me faire remarquer quelque chose qui tourne pas rond dans ma vie. Le Saint-Esprit utilise ce qu'il a sous la main pour nous reconstruire, pour nous changer. Et je me souviens d'une réflexion une fois qu'on m'a faite, il y a des années, qui a tourné dans ma tête pendant longtemps. Parce qu'elle était vraie. Et j'ai dû faire quelque chose à ce sujet. Mais j'aurais pu aussi dire, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce gars, il me dit ça, mais oh, ça le regarde pas, c'est ma vie, ouais, quoi. Et en fait, je crois que le Saint-Esprit a vraiment parlé, ce jour-là. Même si c'était une petite boutade, mais le Saint-Esprit a parlé. Donc, le Saint-Esprit se sert de n'importe qui. Florence, arrête de rigoler. Il suffit de regarder les enfants, vous voyez que les parents sont pas parfaits. C'est une trouvaille, hein. Vous aviez toujours pensé que j'étais parfaite, hein, bien sûr. Voilà. Et il faut faire donc confiance aux méthodes du Saint-Esprit. Il s'y prend comme il veut, faisons-lui confiance. Et il faut accepter aussi qu'il agisse différemment avec notre voisin. Ouh, ça fait mal. Mais Seigneur, pour lui, regarde, t'as laissé passer ça? Puis moi alors, je fais un excès de vitesse, pan. J'ai mon amende. Puis lui, ça fait combien de fois qu'il en fait avec cette vitesse? Il l'a pas. Oui, il y a des choses différentes. On ne sait pas pourquoi. Dans des domaines différents ou dans les mêmes domaines de la vie, Dieu va pas agir de la même façon. Moi, je suis souvent confondue quand je vois des gens très méchants, par exemple, et on prie pour eux. Et on voit Dieu les couvrir d'amour. On se dit, oh là là, moi j'aurais mis une raclée. Oui, parce que ce qu'ils avaient besoin, c'était d'être recouverts d'amour. Et le Saint-Esprit, lui, le sait. Mais si on juge tout le monde à notre niveau, on peut se tromper. Et pour certains, on dit, oh Seigneur, t'as été sévère. Oui, mais ils savaient ce qu'ils avaient besoin. Et lui, il sait. Et je me souviens de ce que mon pasteur m'a dit un jour où j'étais très choquée de quelque chose, j'étais allée le voir. Il m'a dit, Michel, chaque personne est différente. Et l'action de Dieu est différente pour chaque personne. J'ai appris quelque chose ce jour-là. Voilà. Donc, on va terminer là-dessus pour laisser le temps pour nos missionnaires. Un orateur de jeunesse en mission nous avait dit ici, il y a quelques années, j'arrive plus à me rappeler de son nom, parce que je retiens pas les noms, une église unie, Tom Bloomer, voilà. Une église unie et qui travaille, l'ennemi ne peut rien contre elle. Et je m'étais dit, oh là là, c'est vite dit ça. Mais quand on regarde l'histoire de Néhémie, c'est vrai. Une église unie et qui travaille ensemble avec une même vision, l'ennemi ne peut rien contre elle. Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et donc, quand on recherche aussi dans notre vie privée cette unité, cette communion avec le Saint-Esprit, et qu'on travaille, qu'on collabore avec le Saint-Esprit pour reconstruire nos vies, nos couples, nos familles, etc., c'est pareil, l'ennemi n'a pas de prise. Et si on veut justement lui enlever les prises qu'il a, cherchons à être en communion avec le Seigneur, rester dans cette unité, pas tout le temps remettre en question, mais vraiment obéir au Seigneur, faire confiance à sa parole, et l'ennemi n'aura pas de prise sur nous, on va prier. Seigneur, merci pour ce texte de Néhémie qui nous parle tellement. Aide-nous, Seigneur, dans nos vies, à nous soumettre à toi, à être obéissants à ta parole, à te rechercher. Merci, Seigneur, parce que tu veux notre bien, et c'est ça qui nous fait du bien ce matin. C'est de savoir que quelles que soient nos difficultés, nos problèmes, Tu es celui qui reconstruit nos vies, qui rebâtit là où c'est abîmé, qui guérit là où il y a des blessures. Seigneur, nous te faisons confiance et nous te remercions de nous reconstruire. Donne-nous vraiment d'être obéissants à ton Saint-Esprit pour que nos vies soient en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Amen.